Nous allons lire trois textes qui seront des bases pour la prédication, pour cette réponse, qui est Jésus-Christ. Le premier texte se trouve dans le livre de l'Exode, Exode 3, 13 à 14. Il y a là un dialogue entre Moïse et l'Éternel. Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les Israélites et je leur dirai, « Le Dieu de mon père m'a envoyé vers vous. » Mais s'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je ? Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux Israélites. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Voilà pour la première lecture. Une deuxième lecture se trouve dans Matthieu 16. Matthieu 16, et nous lirons les versets 13 à 18. Jésus, arrivé sur le territoire de Césarée de Philippe, posa cette question à ses disciples. « Au dire des gens, qui suis-je, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, les uns disent « Jean-Baptiste », d'autres « Élie », d'autres « Jérémie » ou l'un des prophètes. « Mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprit la parole et lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. » Et nous lirons un troisième texte dans le livre aux Hébreux, chapitre 1, les versets 1 à 4. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. Il l'a établi héritier de toutes choses, et c'est par lui qu'il a fait les mondes. Ce Fils est le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être, soutient toutes choses par sa parole puissante. Après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom bien différent du leur. Jusqu'ici, cette lecture. Un Dieu infini qui parle à des personnes finies. Nous sommes des personnes qui sont limitées. Nous ne sommes pas illimités. Eh bien, nous comptons sur l'œuvre de compréhension du Saint-Esprit qui seul peut nous faire comprendre ce que le Dieu illimité veut nous dire ce matin. La question, vous la connaissez, qui est Jésus-Christ ? Si je viens dans les rangs, petite interview, qui est Jésus-Christ ? Que diriez-vous ? Jésus-Christ a influencé le monde plus que n'importe quelle autre personne. Vous êtes d'accord ? Il a influencé le monde plus que n'importe quelle autre personne. Donc, même simplement pour une connaissance générale, il est important de savoir de qui il s'agit. Un nombre incalculable de livres ont été écrits sur lui. Alors, est-ce qu'il faut tous les lire pour apprendre à le connaître ? Non. En fait, pour apprendre à connaître une personne, nous cherchons les informations auprès de ceux qui ont vécu avec lui et qui nous donnent des faits. Nous voulons connaître les actions de cette personne, ses paroles, son comportement, sa manière de vivre en privé et en public. Là, j'ai une bonne nouvelle, nous avons 4 écrits fiables de personnes qui nous exposent la vie de Jésus-Christ. Sans compter la mention aussi de Jésus-Christ dans des livres d'histoire qui attestent tout simplement qu'il a réellement existé. Nous avons des informations de sa naissance à sa mort. Un médecin historien qui s'appelle Luc a questionné ceux qui ont vécu avec lui pour en donner un récit exact. Et la biographie qu'il a écrite s'appelle l'Évangile selon Luc. Marc, le secrétaire de Pierre, rapporte ce que le plus franc des disciples a vu et entendu. Cette biographie s'appelle l'évangile selon Marc. Matthieu, qui avait l'habitude de compter et d'écrire, a vécu 3 ans avec Jésus-Christ. La biographie qu'il a écrite s'appelle l'évangile selon Matthieu. Et nous avons encore un cousin de Jésus qui a vécu dans la même région que lui, qui était même devenu le plus proche disciple de Jésus-Christ, son disciple bien-aimé, le plus proche ami, si on veut, de Jésus-Christ, a écrit aussi une 4e biographie qui permet aussi de compléter les 3 autres. Et cette biographie s'appelle l'Évangile selon Jean. Voilà donc nos sources fiables de faits réels qui se sont passés dans sa vie que nous allons utiliser pour répondre à la question « Qui est Jésus-Christ ?» Évidemment, tout le reste de la Bible parle de Jésus-Christ. Soit de l'annonce de sa venue dans l'Ancien Testament à l'explication de toute son œuvre dans tout le Nouveau Testament. Lorsque nous avons répondu à la question « Peut-on faire confiance à la Bible ?» eh bien, nous avions aussi vu que la Bible avait un centre. Quel est le centre de la Bible ? Ce centre, c'est Jésus-Christ, justement. On arrive déjà à une première petite conclusion. Tout ce qui n'est pas en accord avec le témoignage de la Bible concernant Jésus-Christ est à rejeter et considérer comme faux. Tout ce qui n'est pas en accord avec le témoignage de la Bible concernant Jésus-Christ est à rejeter et à considérer comme faux, puisque ce sont des témoignages fiables de personnes qui ont vécu avec lui. Et voici 3 aspects que nous avons développés aujourd'hui pour répondre à la question « Qui est Jésus-Christ ?» Le premier, c'est que Jésus a parlé. Il a parlé avec des affirmations très fortes et étonnantes pour un homme. Et notre premier point se concentrera sur ce que Jésus a dit de lui-même. Qu'est-ce que Jésus a bien dit de lui-même ? Deuxièmement, Jésus n'a pas seulement parlé, il a aussi agi. Jésus a agi. Et il a agi de manière extraordinaire, qui révèle en fait son caractère et son origine. Notre deuxième point se concentrera donc sur ce que Jésus a fait. Et troisièmement, nouvelle tout à fait étonnante, Jésus est vivant aujourd'hui. Jésus est vivant aujourd'hui. C'est une particularité unique d'entre tous ceux qui prétendent être prophètes, guides, illuminés ou le titre que vous voudrez bien leur donner. Tous les autres sont morts. Et notre troisième point se concentrera donc sur la résurrection de Jésus-Christ. Avant de nous lancer dans ces divers points, j'aimerais juste faire une remarque. C'est que je ne vais pas chaque fois vous donner les références de tout ce que je vais vous avancer pour la fluidité. Mais vous pouvez relire particulièrement les 4 évangiles pour retrouver en fait tout ce que je vais vous dire. C'est tiré de là, ce n'est pas inventé. Donc premier point, Jésus a parlé. Jésus est audacieux lorsqu'il parle de lui-même. En fait, personne n'a jamais osé parler comme lui avant et après lui. Parce que personne n'est comme lui. Vous me direz, ouais d'accord, mais si quelqu'un parle de lui-même, il peut se tromper. Il peut s'imaginer qu'il est une autre personne, ou il peut exagérer. C'est vrai, mais nous pouvons donc ensuite le vérifier dans sa vie. S'il a dit quelque chose d'exagéré, eh bien nous pourrons le vérifier dans sa vie. Si par exemple, quelqu'un d'entre vous, ou bien si moi je vous dis que je peux soulever 300 kilos, ben il suffit d'observer tout ce que je ne pourrais pas lever par exemple. Ou de me mettre face à un objet qu'il faut lever qui a 300 kilos. Et on verra si ce qui a été dit est vrai ou non. Et pour Jésus de même, s'il se trompe sur ce qu'il dit de lui-même, nous le verrons dans sa vie. Et si tout ce qui est vérifiable est vrai, eh bien nous aurons aussi une grande confiance pour ce qui n'est pas vérifiable. Surtout s'il dit lui-même qu'il est la vérité et que nous ne trouvons aucun mensonge dans tout ce qu'il dit. Voici quelques paroles que Jésus a dites de lui-même et qui ont pu être vérifiées. Il a dit que quelqu'un allait le trahir et il a même désigné cette personne avant son forfait. Et c'est ce qui s'est passé. C'est vérifiable. Jésus a dit que je suis la résurrection. Ok, belle affirmation. Quelques instants plus tard, il ressuscite un homme qui était mort depuis 4 jours. C'est prouvé. Jésus a clairement annoncé sa mort à ses disciples, en allant même jusqu'à prédire le moyen de sa mort, qui était la croix. Et cela s'est réalisé. Jésus a annoncé que 3 jours après sa mort, il reviendrait à la vie. Et cela s'est réalisé. Jésus a dit bien d'autres choses, mais j'aimerais vous en dire quelques éléments. Il a dit « Je suis le pain de vie qui seul peut donner la vie. Je suis la lumière qui seul éclaire les ténèbres. Je suis la porte qui mène au salut. Je suis le cep auquel les sarments sont rattachés pour donner du fruit. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Il est le passage exclusif pour nous approcher de Dieu. » Or, lorsque Jésus utilise le terme « je suis », lorsque Jésus utilise le terme « je suis », c'est plus que simplement utiliser le verbe « être ». En fait, il révèle son affirmation d'être Dieu. D'ailleurs, sans être Dieu, il ne pourrait pas prétendre donner tout ce qu'il propose, tout ce que je viens de vous dire. Lorsque Jésus utilise ce terme « je suis », c'est plus que simplement utiliser le verbe « être ». Il révèle son affirmation d'être Dieu. D'ailleurs, sans être Dieu, il ne pourrait pas prétendre nous donner tout ce qu'il propose. De plus, voici ce que Jésus dit dans Jean 8 aux chefs religieux de son époque, Jean 8, 23. Il leur dit « Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous dis que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Je pense que l'affirmation est assez claire ici. Jésus fait clairement référence à Exode 3, 14, que nous avons lu tout à l'heure, où Dieu se définit comme étant « je suis ». Jésus définit sa personne dans les mêmes termes que Dieu. Il se fait l'égal à Dieu. Et les personnes qui connaissaient bien l'Écriture, la parole de Dieu à l'époque, l'ont bien compris et ils ont voulu le lapider plusieurs fois. Parce qu'ils avaient compris que Jésus annonçait qu'il était Dieu. C'est d'ailleurs la raison qu'ils ont retenue contre lui dans son jugement avant sa mort à la croix. Jésus proclame être le Messie promis pendant des siècles dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, on promet un Messie. Lui, il dit, c'est moi. Il affirme qu'Abraham, qui a vécu 2000 ans avant lui, ou Moïse, 1500 avant lui, l'ont vu. Et même que Moïse a écrit à son propos. Et il dit que tous les livres de l'Ancien Testament parlent de lui. Jésus dit même aux gens qui sont autour de lui, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. » C'est incroyable les affirmations de Jésus, non? Quand Pierre dit à Jésus qu'il est le Messie, le Fils de Dieu, le texte que vous avez devant vous, « Qui dites-vous que je suis tu es le Christ ou le Messie, c'est un synonyme, le Fils de Dieu. » Eh bien, Jésus ne le reprend pas. Au contraire, il va louer les capacités de Pierre à donner la bonne réponse. Pierre parle ici du Messie, le Messie, pas un Messie, le Messie. Celui qui est loin, qui a reçu l'onction de Dieu pour libérer son peuple, pour être son roi, pour être son souverain sacrificateur, pour être son prophète qui le guide. Et comprenez bien aussi l'expression « le Fils de Dieu ». De nouveau, il est dit « le Fils de Dieu », pas « un Fils de Dieu ». « Le Fils de Dieu ». Et cette revendication d'être « le Fils de Dieu » indique une égalité avec Dieu. Nous ne pourrions jamais ici dire, quelqu'un ne pourrait pas dire « je suis le Fils de Dieu ». Nous pourrions dire « je suis un enfant adoptif de Dieu ». Oui, c'est vrai, mais pas « le Fils ». Et quand le souverain sacrificateur demande à Jésus s'il est « le Fils de Dieu », et que sa réponse positive signifie son arrêt de mort, Jésus répond simplement, tu l'as dit. Quand Thomas s'adresse à Jésus ressuscité en disant, mon Seigneur et mon Dieu, Thomas qui reconnaît, dit, mais mon Seigneur et mon Dieu, Jésus dit, il ne dit pas, non, attends, faut adorer Dieu, faut pas m'adorer moi. Pas du tout. Il accepte cette adoration. Il ne le corrige pas. Jésus-Christ, de plus, a affirmé pouvoir pardonner les péchés. Jésus a affirmé pouvoir pardonner les péchés. Ce que seul Dieu peut faire. Jésus a affirmé avoir le pouvoir de donner la vie. Seul Dieu peut le faire. Et il l'a prouvé. On l'a vu avec Lazare, on pourrait en parler encore d'autres personnes. Dieu a donné, Jésus a donné la vie. La promesse, les promesses de Jésus étaient infaillibles et ses commandements absolus. En fait, rejeter les paroles de Jésus signifiait en fait rejeter Dieu lui-même. Jésus a affirmé qu'il jugera le monde et qu'il séparera ceux qui vivront les peines éternelles d'avec ceux qui sont justifiés par son œuvre. Puis attendez, il y a encore quelque chose d'encore plus incroyable. Il dit, Jésus a affirmé que le principal devoir de l'homme était de croire en lui. Le principal devoir de l'homme était de croire en lui et que ne pas le faire était le plus grand péché. Jésus a dit que si quelqu'un aimait quelque chose ou quelqu'un d'autre que lui, plus que lui, n'était pas digne de lui. Et nous pourrions encore continuer sur les affirmations de Jésus en parlant de sa relation avec Dieu qu'il appelle son Père. Et je vous encourage à lire les évangiles, hein, Matthieu, Marc, Luc et Jean, en ayant en tête comment est-ce que Jésus parle de lui-même pour mieux le connaître. Si Jésus est Dieu, c'est la vérité. Mais si Jésus n'est pas Dieu, ce que Jésus dit est de la folie. C'est de la folie. Si votre voisin commence à dire que le principal devoir de l'homme, c'est de croire en lui, puis si on ne croit pas en lui, ben c'est le plus grand péché du monde, on va dire t'es bien gentil, mais Jésus n'est pas un fou. Un exemple, il a enseigné l'amour, on peut dire c'est de la folie comme il a enseigné l'amour. Il a enseigné l'amour comme personne ne l'a fait, mais il l'a prouvé en vivant ce qu'il demandait. Il l'a prouvé par sa vie. Il demandait d'aimer ses ennemis, de bénir ceux qui nous persécutent. Il l'a fait. Il a dit que c'est par l'amour que nous avons les uns pour les autres qu'il est représenté. Eh bien, lui-même a donné sa vie par amour pour nous. Jésus a dit qu'il était la vérité. Alors, nous sommes maintenant à un moment très important de ta vie. Un moment très important de ta vie. La réponse à la question que je vais maintenant poser va influencer toute ta vie. Si tu veux être intègre et honnête, cela va influencer toute ta vie. Voici la question. Crois-tu que Jésus a dit la vérité? Crois-tu que Jésus a dit la vérité? Alors si tu réponds non, Jésus n'a pas toujours dit la vérité, alors il ne faut plus chercher de réponse dans la Bible, parce qu'elle a pour centre un menteur selon vous, si vous dites que Jésus n'a pas dit la vérité. Il ne faut pas chercher du secours auprès du seul vrai Dieu, Père, Fils et Esprit. Car si Jésus n'est pas Dieu, Dieu lui-même, hein, ou Yahvé, ou Jéhovah si vous voulez, hein, est un menteur. Parce qu'il a dit dans Ésaïe 9:5, « Un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera Dieu puissant. » Dieu lui-même avait annoncé qu'un enfant allait naître qui serait Dieu lui-même. Si Jésus n'a pas dit la vérité, il n'y a aucun espoir à placer en lui. Ce n'est pas lui qui peut nous libérer de nos poids, de nos péchés. Quand il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués », si c'est un menteur, ça ne sert à rien d'aller vers lui. Et il faut trouver une solution ailleurs pour être libéré de ces poids de péché. Et jusqu'à aujourd'hui, personne n'a trouvé une autre solution satisfaisante. Par contre, si l'on croit que Jésus a dit la vérité, alors nous comprenons que nous méritons le jugement de Dieu. C'est vrai. Mais tout notre espoir se repose sur ce que lui a fait. Nous pouvons étudier la Bible avec confiance, car elle est la vérité. Elle présente le monde comme Dieu le voit. Oui, la Bible nous présente le monde comme étant rempli de péchés, c'est vrai. On est en train de faire une série sur les juges, hein, c'est assez noir parfois, parce que Dieu présente tel que le monde est avec le péché dans le monde, qui est horrible, mais également avec cette merveilleuse espérance qu'il est venu parmi nous pour nous tirer de cet horrible bourbier Nous avons donc une espérance solide pour l'avenir. Voici donc la question que l'on peut retenir pour ce premier point. Nous avons vu les affirmations de Jésus, particulièrement celle où il affirme sa divinité. Crois-tu que Jésus dit la vérité? Et ensuite vivre en conséquence à la réponse. Mais pour connaître une personne, il est bien évidemment important de s'intéresser aussi à ses actes, à ce qu'il a fait, à ses actions. Et c'est ce que nous allons faire dans ce deuxième point, pour nous aider à étoffer et confirmer notre réponse à la question principale, qui est Jésus-Christ? Alors Jésus a agi. Nous n'avons que très peu d'informations fiables de l'enfance de Jésus-Christ. Parce qu'en fait, les évangiles nous parlent très peu de son enfance. Mais nous avons dans l'évangile de Luc un résumé de son enfance, au chapitre 2, verset 52, où il est dit « Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. » Voilà un résumé. Mais on a très peu de choses de ce qui s'est passé dans son enfance. Par contre, une chose dont nous sommes sûrs, c'est qu'aucun acte surnaturel n'a été pratiqué dans son enfance. Parce que le premier miracle dont il est question, c'est dans l'évangile selon Jean, où il est dit que ce fut le premier miracle de Jésus, c'est celui des noces de Cana, où il changea l'eau en vin. Or, puisque nous parlons un peu des miracles de Jésus, j'aimerais tout de suite vous dire que Jésus n'a jamais fait de miracle pour le spectacle. Jésus n'a jamais fait de miracle pour le spectacle. Chacun de ses actes surnaturels véhiculait certaines leçons. C'est ça. Donc il n'a pas fait des miracles pour le spectacle, chacun de ses actes surnaturels véhiculait quelques leçons. Or Jésus, par exemple, a multiplié la nourriture pour attester qu'il était le pain de vie. Si vous allez voir, toute l'explication du pain de vie est à ce moment-là qu'il est donnée. Il a rendu la vue aux aveugles, il a guéri les boiteux et de nombreuses maladies pour accomplir les prophéties. Il a chassé des démons, il a ressuscité des morts, il a calmé des tempêtes, il a retenu des soldats par une simple parole, ils sont tombés. Il a fait venir les poissons vers le pêcheur, ou il a même marché sur l'eau. Tous ces actes manifestaient en fait que ses prétentions divines n'étaient pas de l'orgueil démesuré ou de l'imagination fertile, mais bien la réalité. Les actions de Jésus manifeste sa divinité. Les actions de Jésus manifestent sa divinité. D'autre part, Jésus a eu soif. Jésus a été fatigué. Tellement fatigué qu'il a pu dormir dans une barque ballottée dans une tempête. Il a pleuré. Il a connu la douleur physique et psychique. Il a eu un corps comme vous et moi. Il a marché, il s'est assis, on a pu lui laver les pieds, il a lavé les pieds à d'autres personnes. En fait, les actions de Jésus manifestent son humanité également. Les actions de Jésus manifestent son humanité. D'autre part, Jésus a vécu une vie parfaite. Il était l'incarnation même de l'amour, de la joie, de la paix, de la patience, de la bonté, de la bienveillance, de la fidélité. Il était totalement maître de lui-même. Et il a fait quelque chose d'assez étonnant. Il a mis ses ennemis, pas ses amis, hein, il a mis ses ennemis au défi de trouver un péché en lui. Parce que les amis, on va un peu excuser les fautes de nos amis. Tandis que les ennemis, on va cherche vraiment à trouver l'erreur. Hein. Et il a mis au défi de trouver un seul péché en lui à ses ennemis, et ils n'en ont pas trouvé. Ils n'en ont pas trouvé. Ce qui signifie que lorsqu'il dit qu'il fait toujours ce que Dieu veut, c'est vrai. Parce que péché, c'est ne pas faire ce que Dieu veut. Ou faire ce que Dieu ne veut pas. Jésus a vécu avec des hommes qui pensaient qu'il était impossible d'être parfait. Comme vous et moi, hein, on dit c'est pas possible d'être parfait, d'accord? On dit souvent nul n'est parfait. Eh bien, des personnes ont vécu avec lui qui avaient cette même notion. On ne peut pas être parfait. Et voici ce que l'un des plus proches amis de Jésus, qui a vécu 3 ans avec lui en équipe, a dit. 1 Pierre 2, 22. Lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude. Imaginez. Pendant 3 ans, il était à côté de lui, il a pu vivre avec lui. Aucun péché, aucune parole mauvaise. C'est vrai que ses adversaires se sont moqués de lui, l'ont insulté. Mais lorsqu'ils l'ont arrêté et qu'il a fallu trouver un motif de condamnation, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cherché des faux témoins. Parce qu'il n'y avait pas de motif de condamnation. Ils n'avaient pas de motif de condamner, à part leur propre jalousie, évidemment. D'ailleurs, lors des diverses étapes de son procès jusqu'à sa mort, pas moins de 6 personnes clés ont déclaré son innocence. Que ce soit le gouverneur Pilate, qui l'a dit à plusieurs reprises, mais il est innocent. Sa femme, qui a été même avertie par un rêve. Le disciple même qui a livré Jésus. Dites, attends, mais il l'a livré, il devrait quand même se dire qu'il y a un problème. Mais lui-même a dit que Jésus était innocent. Hérode, le brigand sur la croix, ou même le centurion qui l'a crucifié. Tous ont reconnu clairement que Jésus était innocent. De toute sa vie, Jésus était dépourvu d'égoïsme, d'esprit de rancune, de désir de revanche ou d'esprit querelleur. Même dans le pire supplice à la croix, il demande à son Père de pardonner ce péché à ses bourreaux. Voilà qui est Jésus-Christ. Les actions de Jésus manifestent sa perfection, sa vie sans péché, en fait sa sainteté. Les actions de Jésus manifestent sa perfection, sa vie sans péché, sa sainteté. Jésus a toujours parlé avec amour. Il a agi avec amour. Et il a prouvé son amour en donnant sa vie. Il n'a pas fait la guerre. Il n'a pas cherché à conquérir le monde avec des armes humaines. Son arme suprême, c'est l'amour. Un amour dans la vérité. Un amour non dépourvu de justice et de sainteté. Qui est Jésus-Christ? Les actions que nous avons eu le temps de considérer ensemble ce matin, Jean dit dans son évangile qu'il n'y aurait pas assez de livres dans le monde pour dire tout ce qu'il a fait, donc vous comprendrez qu'on n'a vu que quelques éléments. Mais les actions que nous avons pu voir ensemble nous indiquent que Jésus est divin, humain et parfait. Et pour connaître quelqu'un, il faut connaître sa fin. Et là, Jésus est totalement unique et particulier. C'est notre troisième point. Parce que Jésus est vivant. Ça, c'est tout à fait étonnant. Jésus est vivant. C'est vrai que Jésus est mort à la croix. Il est mort innocent. Il est mort en manifestant son amour sans commune mesure. Il est mort en étant abandonné de tous. Jésus a été mis au tombeau. Mais comme il l'avait annoncé, il n'y est pas resté. Il n'y est pas resté. La résurrection de Jésus-Christ est le point d'orgue de tout ce qu'il a dit et fait sur la terre. Si Jésus est vraiment ressuscité, cela atteste que tout ce qu'il a fait et ce qu'il a dit était vrai. Le tombeau était vide. C'est important ça. Le tombeau était vide et personne n'a jamais remis sérieusement cela en question, même pas ses pires ennemis. Quand les disciples témoignaient en disant « le tombeau est vide », ils ne disaient pas « ah non, c'est pas vrai ». Il n'est pas vide. Il n'est pas ressuscité. Ben non. Même les ennemis constataient que le tombeau était vide. Le tombeau était vide et personne n'a jamais remis sérieusement cela en question. Pas même ses pires ennemis. Deuxièmement, s'il est vide, les ennemis, qu'est-ce qu'ils pourraient faire? Montrer son corps mort. Comme ça, on peut clairement dire que Jésus n'est pas ressuscité. Mais personne n'a jamais pu montrer le corps mort de Jésus après sa résurrection. Personne. Personne n'a pu montrer le corps mort de Jésus après sa résurrection. Même ses pires ennemis n'ont pu le trouver pour prouver qu'il n'était pas ressuscité. Personne. Et je suis convaincu qu'ils ont cherché. Parce que c'était la pièce à conviction, évidemment. De plus, des centaines de témoins ont vu Jésus vivant après sa résurrection. Des centaines. Si c'en était un ou deux, on pourrait dire, ok, un peu son imagination qui a fonctionné. Mais des centaines de personnes ont vu Jésus-Christ après sa résurrection. Des sceptiques ont été transformés en adorateurs. Des sceptiques ont été transformés en adorateurs. Des peureux en hommes courageux. Simplement en ayant vu Jésus ressuscité. Des peureux en hommes courageux, prêts à mourir pour ce témoignage. Et vous savez, personne n'est prêt à mourir pour quelque chose qu'il sait ne pas être vrai. C'est vrai que certaines personnes meurent pour des mensonges, mais eux, ils croient que c'est vrai. Mais quand on sait que ce n'est pas vrai, on n'est pas prêt de mourir pour quelque chose dont on sait que ce n'est pas vrai. Donc des centaines de témoins ont vu Jésus vivant après sa résurrection. Des sceptiques ont été transformés en adorateurs. Des peureux en hommes courageux prêts à mourir pour ce témoignage. Personne n'est prêt à mourir pour quelque chose qu'il sait ne pas être vrai. Il est écrit dans 1 Corinthiens 15, les versets 3 et suivants ceci. Donc c'est l'apôtre Paul qui parle, donc un homme sceptique face à Jésus-Christ. « Je vous ai transmis avant tout ce que j'ai aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli. Il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Et il a été vu par Céphas, donc c'est Pierre, hein, Céphas, puis par les 12. Ensuite, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants. » Donc on peut aller leur demander. Et dont quelques-uns sont décédés. Ensuite, il a été vu par Jacques, puis par tous les apôtres. Après eux tous, il s'est fait voir à moi comme à l'avorton, car je suis moi le moindre des apôtres. Je ne mérite pas d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. La vie de Jésus, la vue, pardon, de Jésus vivant après sa résurrection, a transformé Saul de Tarse, un fanatique anti-Jésus-Christ, qui est devenu un témoin important de l'œuvre de Jésus-Christ. Donc la vue de Jésus vivant après sa résurrection a transformé Saul de Tarse, qui est donc l'apôtre Paul, un fanatique anti-Jésus-Christ, qui est devenu un témoin important. Un tombeau vide, un corps introuvable, des témoins d'une résurrection sans aucun doute, des personnes opposées, transformées en le voyant. Tout cela devrait nous faire réfléchir. Et s'il est vraiment ressuscité, pourquoi ne pas le reconnaître comme Seigneur, lui le souverain, comme sauveur, lui le rédempteur? Vous savez, une adhésion mentale ne suffit pas. Oui, c'est vrai, il est ressuscité. Oui, mais s'il est vraiment ressuscité, tout ce qu'il a dit est vrai. Si Jésus est le chemin, la vérité et la vie, comme il le dit dans Jean 14, 6, alors c'est uniquement en s'identifiant à lui dans sa mort et sa résurrection, en écoutant ses paroles, en les mettant en pratique et en saisissant la vie, que nous serons libérés du péché et en route vers la patrie céleste. Personne n'est comme Jésus-Christ. D'autres ont triomphé sur une faible résistance avec de fortes puissances armées. Lui, il a triomphé de formidables résistances par l'amour et de faibles moyens à vue humaine. D'autres favorisent le goût et les passions des hommes. Lui, il favorise le combat des passions pécheresses des hommes. Certains ont été meurtriers au nom de leur religion. Lui n'a employé que la douceur et a été un martyr pour les siens. Certains ont eu du succès selon la vue humaine. Lui a eu du succès selon la vue de Dieu. Certains cherchent à se détacher de leur humanité. Lui l'a pleinement et parfaitement vécu. Qui est Jésus-Christ? On n'a pas pu faire le tour ce matin. Mais quand même quelques éléments. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est homme. Et Jésus-Christ est parfait. Donc qui est Jésus-Christ? C'est un homme qui est Dieu et qui est parfait. Ça, c'est les éléments que je voulais souligner avec vous ce matin. Et j'ai une autre question. Qui est Jésus-Christ pour toi? Moi, je vais vous dire qui est Jésus-Christ pour moi. Et vous pourrez réfléchir à qui il est pour vous. Pour moi, il est mon Dieu, mon roi. Il est mon sauveur. Il est mon avocat, mon ami. Il est mon maître. Je vais vous dire, il est mon héros dont je suis le plus fier. Je suis fier de ce que Christ a fait. Il est ma ressource. Il est celui que je veux servir et aimer par-dessus tout. Il est ma vie. Il est ma référence. Et lorsque je me retrouvais devant Dieu, je dirais que je ne mérite rien, mais que grâce à Christ, j'ai l'assurance d'être pardonné, justifié, et qu'il me prépare une place dans sa grâce immense. Voilà quelques éléments de qui est Christ pour moi. Qui est Christ pour toi ? Nous allons prier. Éternel, merci parce que tu es un Dieu qui est venu parmi nous. Oh, pensée complètement folle et inimaginable dans notre petit cerveau humain. Comment est-ce possible que l'infini puisse venir dans un corps fini ? Seigneur, cela nous dépasse. Mais même si cela nous dépasse, nous en sommes émerveillés. Et nous voulons te louer. Merci parce que tu es venu parmi nous. Merci parce que tu es venu nous montrer le chemin. Mais bien plus, tu as tout accompli pour que nous puissions nous approcher de toi. Tu as tout accompli pour que nous puissions recevoir de toi un héritage qui dépasse tout ce que nous pouvons même imaginer. Seigneur, j'aimerais te prier que nous n'ayons pas seulement des informations de qui est Jésus-Christ, mais que nous puissions entrer dans une relation personnelle avec lui. Et nous pouvons le faire simplement en reconnaissant nos péchés et en ayant la foi, en croyant qu'il a tout payé pour nous. En croyant qu'il est venu ici sur cette terre, qu'il est Dieu, qu'il est homme, qu'il est parfait. Merci pour ces paroles si bienfaisantes lorsqu'il nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est vrai, il le fait, j'en suis témoin. Sois loué et béni dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.